Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une aujourd'hui, la détermination de l'opposant ivoirien Tidjane Thiam au lendemain d'une décision de justice réclamant sa radiation des listes électorales. Décision prise à 6 mois de l'élection présidentielle.
Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi. Représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années.
Les mots de Tidjane Thiam, dont le parti s'est réuni ce matin. Nous appellerons notre correspondante en Côte d'Ivoire dans Afrique Midi à 12h30 temps universel. Au sommaire également, la traque en Inde dans la région du Cachemire. Les forces de sécurité recherchent les hommes qui ont tué 26 personnes hier, des civils en visite dans cette région touristique. Région disputée par l'Inde et le Pakistan qui est accusé de soutenir la rébellion armée. Alors est-ce la fin de la période d'accalmie entamée il y a 5 ans? Que cherchaient les assaillants en s'en prenant à des touristes? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure. Cette attaque, elle a eu lieu hier alors que le vice-président américain se trouve justement en Inde, d'où il lance ce matin un appel à l'Ukraine et à la Russie. Les deux pays doivent s'entendre, dit J.D. Vance, faute de quoi les États-Unis mettront fin à leur médiation. Pour l'instant, aucun signe ne permet de croire à un accord prochain. Les lignes rouges n'ont pas bougé et la réunion avec les alliés de l'Ukraine aujourd'hui à Londres se déroule sans les hauts responsables initialement prévus. On y reviendra dans une demi-heure.
RFI Midi.
Nous irons ensuite en Turquie où les autorités accentuent encore la répression contre les personnes LGBT+ et contre les organisations qui les défendent et les protègent. Une nouvelle loi est en préparation qui pourrait avoir des conséquences très graves.
Par exemple, deux lesbiennes ou deux gays qui se tiennent la main dans la rue, ou un individu de sexe biologique masculin qui porte une jupe ou se maquille, ou bien à l'inverse, une personne née biologiquement femme mais qui se considère comme un homme trans et se comporte, selon les critères du pouvoir, comme un homme, tout cela sera criminalisé. Tout cela sera puni de prison.
Reportage de notre correspondante en Turquie à écouter dans 3 quarts d'heure. Enfin, nous irons auprès des Haïtiens de Springfield aux États-Unis. Tous vivent dans la peur après avoir fait l'objet d'une campagne de haine pendant la campagne de Donald Trump, puis s'être vu supprimer les statuts de protection pour les réfugiés dont ils bénéficiaient. La crainte d'une expulsion est omniprésente. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI à Paris, 89 FM.
Et on commence avec le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au Vatican, où les fidèles qui le souhaitent peuvent à présent se recueillir quelques instants auprès du pape.
Depuis ce matin, son corps est exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre. Son cercueil a été transféré à l'issue d'une cérémonie d'un peu plus d'une heure, au cours de laquelle sa dépouille a été transportée solennellement de la chapelle où il se trouvait depuis lundi soir, au cœur de l'immense basilique. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi cette cérémonie empreinte, dites-vous, de beaucoup d'émotions.
Oui, d'émotions, de sobriété et de solennité, avec d'abord une courte prière donnée dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, puis une lente procession dans les ruelles du Vatican, le cercueil de bois drapé de rouge, encadré par des gardes suisses armés de hallebardes et accompagné par les cardinaux au son du glas des prières et des psaumes. Le cercueil est ensuite entré sur la place Saint-Pierre, puis dans la basilique. Il a alors été déposé devant l'autel de la confession, là où, selon la tradition, a été inhumé l'apôtre Pierre. Le corps du pape François a enfin été aspergé d'eau bénite et encensé par le cardinal Kamerlingue en charge de la période de transition jusqu'à la désignation d'un nouveau pape. À présent, les fidèles vont pouvoir se recueillir auprès de la dépouille papale durant 3 jours jusqu'à vendredi soir. Le Vatican attend au moins 200 000 personnes et déjà ce sont de très longues files d'attente qui se forment autour de la place Saint-Pierre. Des fidèles de tout pays et de tous les continents qui souhaitent ainsi rendre un ultime hommage au pape décédé ce lundi matin. Un moment chargé d'émotions et d'histoire auquel je suis heureux d'assister malgré la tristesse de l'événement, me confiait tout à l'heure un jeune catholique venu d'Allemagne pour les fêtes pascales et qui a décidé de prolonger de quelques jours son séjour à Rome pour participer à ces instants de prière et de recueillement.
Daniel Valo, en direct de la place Saint-Pierre.
Le pape François avait souvent condamné les attaques israéliennes à Gaza, les qualifiant d'immorales.
Elles se poursuivent aujourd'hui. L'armée a bombardé la ville de Gaza et la défense civile palestinienne annonce un lourd bilan. Au moins 17 morts, des personnes seraient toujours sous les décombres. Une école a notamment été visée. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire pour l'instant.
En Inde, les forces de sécurité ont lancé une vaste traque contre les assaillants qui ont ouvert le feu hier sur des touristes.
Dans la région du Cachemire, dans le nord-ouest du pays, 26 personnes ont été tuées par des hommes munis d'armes automatiques. Résistance du Cachemire a revendiqué l'attaque dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Ce groupe affirme que les cibles n'étaient pas des touristes ordinaires, mais des individus liés aux services indiens de sécurité.
Et c'est dans ce contexte que le vice-président américain J.D. Vance termine une visite de 3 jours dans le pays.
Venu accompagner sa femme dans le Rajasthan, il est coutumier du fait. Il a aussi fait de son passage un rendez-vous diplomatique. L'occasion pour l'Inde et les États-Unis de Trump d'afficher leur proximité idéologique et leur espoir de conclure un accord de libre-échange. À Bangalore, le compte-rendu de Combastin.
Accueil avec des éléphants et danseurs, dîner médiatisé, visite des grands monuments comme le Taj Mahal, Narendra Modi a soigné le séjour de J.D. Vance à New Delhi et dans le Rajasthan. Le vice-président a lui salué la popularité du premier ministre indien et exprimé sa confiance pour l'Inde au XXIe siècle. Harsh Pant, expert de l'Observer Research Foundation, se dit optimiste sur les avancées commerciales.
Cet accord peut avancer par étapes. Sur certains secteurs, l'Inde peut réduire ses barrières pour obtenir des concessions similaires côté américain. Sur l'immigration, on peut avancer aussi. L'Inde a montré qu'elle comprenait le message de fermeté de Trump tout en faisant passer son mécontentement sur le traitement de ses citoyens.
Jean-Joseph Boileau, expert de la diplomatie indienne, affirme que le gouvernement indien est plus divisé qu'il n'y paraît face à Washington.
De la contradiction entre d'un côté les diplomates professionnels qui savent qu'ils n'ont rien à attendre des États-Unis et le parti nationaliste hindou dont la posture idéologique est très proche du mouvement fondamentaliste réactionnaire aux États-Unis.
L'opposition s'inquiète, elle, du prix à payer par l'Inde pour cet accord de libre-échange dont les discussions devraient se poursuivre très rapidement. Combastin, Bangalore, RFI. That our nations have much
to offer one another. Et d'Inde, le vice-président américain a mis en garde Moscou et Kiev.
Le vice-président a déclaré que les deux pays doivent parvenir à un accord, faute de quoi Washington mettra fin à ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu. Hier, le Kremlin avait mis en garde contre toute précipitation dans les discussions. Selon le Financial Times, Vladimir Poutine a proposé aux Américains de stopper son invasion en échange notamment d'une reconnaissance de la souveraineté russe en Crimée. La péninsule a été annexée depuis 2014.
Sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on note une accalmie.
Et les marchés soufflent. Après l'Asie, les bourses européennes ont ouvert dans le vert. Énième épisode, Donald Trump a annoncé une baisse conséquente des droits de douane avec la Chine. Il reconnaît que les surtaxes à 145% qu'il avait lui-même imposées étaient très élevées.
Le président français, lui, est à Madagascar.
C'est la première visite d'un président français dans l'île depuis Jacques Chirac en 2005. Après Mayotte et La Réunion, Emmanuel Macron finit sa tournée dans l'océan Indien pour une visite de 2 jours. Au-delà des échanges bilatéraux pour développer la coopération entre les deux pays, l'enjeu est de réaffirmer à l'occasion de ce déplacement le rôle de la France dans l'océan Indien face aux ambitions croissantes de la Chine et de la Russie.
Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec notre envoyé spécial. Le Premier ministre, quant à lui, doit faire face à de nouvelles accusations concernant les violences physiques et sexuelles perpétrées pendant des décennies au sein de l'établissement catholique Bétaram entre 1950 et 2010. Cette école est située dans le sud-ouest de la France.
François Bayrou doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il avait eu ou non connaissance de ces agissements. Cette fois, les accusations contre Bétaram et Salman de sa propre fille. Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, Hélène Perlan raconte les violences qu'elle a subies dans les années 80 au sein de l'institution où elle était, elle aussi scolarisée. Sophie Volatier-Godard nous a rejoint pour en parler. Bonjour Sophie.
Bonjour.
La fille de François Bayrou affirme que son père n'était pas au courant.
Nous sommes à l'été 1983. Hélène Perlan a 14 ans. Elle participe à une colonie de vacances organisée par la congrégation religieuse des Pères de Bétaram dans les Pyrénées. Elle raconte qu'une nuit, l'un des encadrants, l'abbé Lartiguet, la prend par les cheveux et la traîne au sol sur plusieurs mètres. Puis il la roue de coups de pied et de coups de poing. Le lendemain, elle a des bleus sur tout le corps et des acouphènes violents. Elle évacue les questions de ses camarades. Bref, elle ne parle à personne de cette nuit. Dans ce même entretien accordé à Paris Match, Hélène Perlan déclare ne pas avoir vu les violences subies par ses camarades. Elle décrit Notre-Dame de Bétaram comme une secte qui faisait peser sur les élèves la honte et la culpabilité. Des pressions psychologiques qui, d'après elle, empêchaient les élèves de se confier sur les violences. Et quand bien même plusieurs témoignages accusent son père d'avoir couvert l'affaire, la fille de François Bayrou le martèle aussi, elle ne lui en a jamais parlé. Le témoignage d'Hélène Perlan figure dans le livre « Le silence de Bétaram », écrit par Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétaram.
Sophie Volatier-Godard du service France de RFI.
La direction le Canada à présent. Près de 60 ans après son utilisation, un pesticide a été retrouvé dans des truites et dans la boue des lacs de la province du Nouveau-Brunswick.
C'est le constat fait par des scientifiques qui ont publié une étude dans la revue scientifique PLOS ONE. Le DDT, très utilisé dans les années 50 jusqu'aux années 70 dans la sylviculture canadienne, est un insecticide probablement cancérogène pour l'homme. Pauline Berger.
Dans les années 50 et jusqu'en 1968, le DDT était pulvérisé sur les forêts canadiennes de conifères pour les protéger des insectes transportant le paludisme. Plus de 50 ans plus tard, il a été retrouvé dans près de la moitié de la province de New Brunswick, mais aussi dans l'organisme des truites qui vivent dans ces lacs, en quantité importante, parfois jusqu'à 10 fois supérieure au seuil de sécurité nationale. Selon Joshua Kurek, auteur de l'étude, cette pollution menace les écosystèmes et les pêcheurs.
Brook trout, it's the most common fish.
La truite mouchetée est le poisson le plus pêché par les pêcheurs amateurs dans cette province. Ils sont plus de 50 000 à détenir un permis de pêche et la plupart d'entre eux consomment les poissons qu'ils ont attrapés. Et nous savons que chez l'homme, le DDT est reconnu comme probablement cancérogène.
Une menace qui concerne particulièrement les femmes en âge de procréer et les enfants, mais pour s'en protéger, les remèdes manquent.
Il n'y a pas de solution. C'est pour ça que ces produits chimiques synthétiques comme le DDT ont été bannis. La seule solution, c'est le temps. Tout en sachant que le DDT peut persister dans la boue au fond des lacs de plusieurs dizaines d'années à 150 ans.
Interdit d'utilisation pour l'agriculture intensive, le DDT est encore autorisé en petite quantité dans les États qui luttent contre le paludisme, malgré les risques pour la santé humaine.
Pauline Berger, voilà, c'est la fin de ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha, à tout à l'heure.
RFI Midi, Antananarive, 96 FM.
L'actualité en France avec la suite du voyage d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Le président français est à Madagascar. Il a d'abord été accueilli par le Premier ministre malgache avant de rencontrer son homologue Ange Radzoel. Vous suivez ce déplacement, Valérie Gasse. Et cette rencontre, elle ne concerne pas seulement les liens bilatéraux. Emmanuel Macron s'adresse aussi à un partenaire régional.
Oui, Madagascar est un pays stratégique dans la zone qui accueille demain le sommet de la Commission de l'océan Indien. Le dernier sommet de ce type avait eu lieu il y a 10 ans. L'enjeu est donc très important pour le président de la République française. Il l'a redit hier, lorsqu'il était encore à La Réunion, il tenait à être présent pour cet événement. Son objectif est de montrer que la France est un État influent dans la région de l'océan Indien, une position clé qui permet de rayonner vers l'Afrique de l'Est et l'Inde. Emmanuel Macron s'est appliqué depuis 2018 à mettre en place une stratégie indo-pacifique. Il entend donc la décliner ici, au milieu de ses interlocuteurs de la zone.
Alors Valérie, il y a des questions qui fâchent avec certains pays de la région.
Oui, Madagascar revendique la souveraineté sur les îles Éparses, territoire français duquel fait partie l'île Glorieuse, sur laquelle Emmanuel Macron s'était d'ailleurs rendu en 2019 pour bien réaffirmer la présence française. C'était le premier président français à poser le pied sur cet îlot où sont seulement postés des scientifiques et des militaires. Ce qui avait été ressenti comme un affront pour Madagascar, c'est donc un des sujets sensibles qui sera certainement abordé avec le président malgache. L'autre sujet qui fâche concerne Mayotte. Emmanuel Macron souhaite souhaite qu'elle soit incluse, comme l'est la Réunion, dans la Commission de l'Océan Indien, la COI, dont la France, argumente le président, finance 40% des programmes. Mais les Comores sont opposés à cette inclusion. Lors du sommet, demain, Emmanuel Macron va donc peser pour avancer sur ce sujet qui lui tient à cœur. L'objectif étant que Mayotte puisse profiter de la coopération régionale en matière alimentaire, de santé, d'aide d'urgence. Le passage du cyclone Chido à Mayotte a rendu cette inclusion encore plus importante.
Et dans la région, la France est en concurrence avec la Russie et la Chine.
C'est un enjeu stratégique pour la France. Ne pas céder trop de terrain face à ces pays dans cette zone géographique. La Russie est présente depuis longtemps à Madagascar par le biais de la coopération bilatérale, notamment en matière de matériel militaire, et elle essaie d'augmenter son influence. Elle a notamment mené des opérations d'ingérence lors de la présidentielle malgache en 2019. La Chine a aussi placé ses pions. C'est le premier partenaire commercial de Madagascar. Il y a une communauté chinoise implantée de longue date et intégrée dans la population. Pour rester un partenaire privilégié et avoir un rôle d'état-puissance dans la région, Emmanuel Macron va donc jouer à fond la carte diplomatique.
Valérie Gasse à Madagascar, où nous retrouverons notre correspondante dans Afrique Midi dans un peu plus d'une heure.
RFI, la France à midi.
Comme chaque jour, notre entretien avec une personnalité politique. Véronique Rigolet, vous recevez Yann Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste.
Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. On va se pencher sur les pistes du gouvernement pour faire des économies, et notamment la possibilité de mettre les retraités à contribution. Mais pour commencer, un mot sur les hommages rendus par la gauche française au pape François. Vous-même, Yann Brossat, vous saluez ces combats envers les pauvres, envers les migrants.
Oui, bien sûr, je salue l'ensemble de ces combats, et je pense que la parole du pape était une parole bienvenue dans un moment où on entend de plus en plus des propos d'extrême droite, où on entend une volonté, de y compris de chefs d'État comme Trump, d'instiller le venin de la division et de la haine partout. Le pape portait une parole qui était une parole de paix, une parole de justice. Et je pense que face au vent mauvais de la réaction, cette parole faisait du bien et qu'elle faisait d'une certaine manière contrepoids au regard de ces menaces d'extrême droite qui montent partout.
Vous diriez que c'était un pape de gauche, vous iriez jusque-là ?
Je n'irai pas jusque-là et je ne pense pas que les valeurs de justice appartiennent à la gauche. Elles sont parfois partagées au-delà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pape-là faisait du bien et que ces paroles-là faisaient du bien dans un monde une fois de plus traversé par des idées de haine, par des idées racistes, par le chacun pour soi. Un pape qui dénonçait d'ailleurs à très juste titre les drames provoqués par le capitalisme, par le dieu argent. Ce sont des paroles qui étaient justes et je souhaite qu'elles puissent s'exprimer, se faire entendre dans les années qui viennent. C'est d'ailleurs ce qui faisait que ce pape parlait bien au-delà des catholiques et que beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas dans la religion catholique se reconnaissaient dans les propos qu'il pouvait tenir.
Voilà, hommage au pape François. Pour autant, est-ce que la République, Yann Brossat, doit mettre ses drapeaux en berne comme va le faire la France samedi pour les obsèques du pape? Le député Corbière dénonce ce matin une laïcité à géométrie variable. La République, dit-il, n'a pas à manifester une préférence pour un culte. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends qu'on puisse s'interroger. J'ai entendu les propos tenus par Alexis Corbière. Simplement, pour être tout à fait franc et tout à fait honnête, je pense que dans cette planète, il y a plus grave. Il y a plus grave que de rendre hommage à quelqu'un qui s'est battu pour la paix, pour la justice. Je pense au contraire que ces paroles étaient bienvenues et donc qu'on rende hommage au pape qui n'était pas qu'un pape, qui était aussi un chef d'État. Tout cela ne me choque pas.
On revient au débat politique avec cette question. Les retraités vont-ils faire les frais de la rigueur budgétaire alors que le gouvernement recherche 40 milliards d'euros pour boucler le budget 2026? La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a ouvert la porte à la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités, mesure poussée également par le MEDEF, le patronat. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est honteux parce que la réalité, c'est que si aujourd'hui le gouvernement cherche 40 milliards d'euros, c'est parce que il procède à une gabegie absolument incroyable en versant chaque année 200 milliards d'euros à des entreprises privées sans aucune espèce de contrepartie. Donc s'il y a des économies à faire dans le budget de la France, c'est pas du côté des retraités, du côté de gens qui ont bossé toute leur vie pour bénéficier d'une retraite parfois bien modeste, c'est du côté de ces grandes entreprises, parfois y compris des entreprises du CAC 40, qui touchent des aides publiques, qui versent des dividendes astronomiques à leurs actionnaires, qui parfois procèdent à des licenciements. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher des économies, certainement pas du côté du monde du travail et des retraités.
Vous pensez, bien sûr, hein, que c'est les riches qui doivent payer, mais est-ce que vous entendez ces arguments, hein, qui viennent de la majorité, qui disent bien que les retraités vivent quand même mieux que les actifs et que on ne peut pas mettre, c'est ce que dit Amélie de Montchalin, indéfiniment à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement?
Je pense qu'on a là la tactique classique du gouvernement qui consiste à opposer les gens les uns contre les autres, en l'occurrence opposer les actifs aux retraités. Écoutez, si le gouvernement considère que les travailleurs ne gagnent pas suffisamment plus que les retraités, bah, qu'on augmente les salaires. D'ailleurs, ça fera du bien à nos caisses de retraite parce que ça fera rentrer des cotisations sociales supplémentaires. Moi, je pense que on devrait plutôt être fiers qu'en France, on ait un niveau de vie des retraités qui, effectivement, est plutôt meilleur que dans les autres pays de l'Union européenne. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que le gouvernement est en train de présenter ça comme un problème. C'est plutôt le signe que notre modèle social fonctionne et que notre système de retraite par répartition fonctionne. Et donc, on devrait plutôt avoir envie de le consolider que de le broyer comme le gouvernement s'y applique depuis maintenant plusieurs années. Si, en tout cas, la question, c'est celle de la rémunération du travail, eh bien, augmentons les salaires, augmentons le SMIC et permettons à ceux qui travaillent de vivre dignement de leur travail plutôt que de s'en prendre aux retraités qui sont quand même d'anciens travailleurs.
Voilà, il ne faut pas toucher au pouvoir d'achat des retraités également ?
Non, je pense au contraire, il faut pas toucher au pouvoir d'achat des retraités, il faut globalement revaloriser le travail dans notre pays et donc permettre aux travailleurs et à ceux qui ont bossé toute leur vie de vivre dignement. Et ça suppose effectivement un partage des richesses et donc, je le redis, de mettre sous condition les aides publiques aux entreprises. Ça me paraît être une mesure de bon sens. Nous avons d'ailleurs une commission d'enquête sur ce sujet au Sénat qui est présidée par mon camarade Fabien Gay qui auditionne en ce moment même de grands patrons d'entreprises et on s'aperçoit que beaucoup touchent des aides publiques dont elles font un usage qui est particulièrement mauvais. Ça, c'est de la gabegie d'argent public et c'est de ce côté-là qu'il faut regarder.
Est-ce que vous pensez que cette question pourrait être tranchée, comme le croit en tout cas le gouvernement, par les partenaires sociaux, les syndicats réunis au sein du conclave sur les retraites ?
D'abord, je constate que dans ce conclave, il y a de moins en moins de monde, puisque les organisations syndicales de travailleurs le quittent au fur et à mesure, précisément. Parce que le mandat qui avait été donné à ce conclave au départ se réduit comme peau de chagrin. Je rappelle que initialement, il avait vocation à trancher la question de l'âge de départ à la retraite. Et plus ça va, plus on s'aperçoit que les missions qui lui sont confiées sont bien différentes. Bon, en tout cas, je pense que cette piste-là sera très vite abandonnée parce qu'il n'y aura jamais une majorité à l'Assemblée nationale pour s'en prendre au pouvoir d'achat des retraités.
Que vaut ce conclave sur les retraites, vous l'évoquiez, alors que le Premier ministre Bayrou a déjà annoncé que les Français devront travailler plus. Difficile de penser qu'on puisse revenir sur la réforme des retraites et l'âge de départ à 64 ans.
Ce conclave ressemble en réalité à une arnaque, parce que en même temps que le Premier ministre a ouvert une porte, au départ c'était ça l'idée, c'était permettre de remettre sur le tapis la question de l'âge de départ à la retraite, et puis finalement le Premier ministre a fermé la porte qu'il avait ouverte lui-même. Donc tout ça donne le sentiment que les dés sont pipés, et c'est ce qui a conduit un certain nombre d'organisations syndicales, comme FO, comme la CGT, à le quitter, et je les comprends.
Reste en France, Yann Brossat, cette dette énorme, cet Himalaya de la dette, comme le dit le Premier ministre Bayrou. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'affranchir du respect des 3% de déficit, comme nous le réclame Bruxelles, et comme le pense le patron de votre parti, Fabien Roussel?
Oui, il faut s'en affranchir. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un peu étrange à ce qu'aujourd'hui l'Union européenne nous explique qu'on ne peut pas s'affranchir de ces règles, sauf pour les dépenses d'armement qui, elles, peuvent être poussées au maximum, alors même que toutes les autres dépenses, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, elles, restent soumises à la règle des 3%. Mais ça n'empêche pas la question du niveau d'endettement doit malgré tout être posée. Et c'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de pistes d'économie à proposer. Je dis par exemple que cette question des aides publiques aux entreprises doit être posée, que la question plus globale de la fiscalité des plus riches, des grosses fortunes, doit être posée elle aussi. En vérité, la question qu'il faut avoir le courage de poser dans cette période, c'est celle du partage des richesses. Simplement, le gouvernement, lui, jusqu'à présent en tout cas, en a fait un tabou et refuse qu'on puisse poser cette question en grand, alors même qu'elle devrait être à l'ordre du jour.
Mais comment vous prônez la réindustrialisation de la France en même temps que la suppression des aides aux entreprises ?
Moi, je ne propose pas de supprimer les aides aux entreprises. Je propose qu'elles soient conditionnées. Une entreprise qui investit, une entreprise qui fait le choix de l'emploi, qui fait le choix de bons salaires, qui fait le choix de la transition écologique, elle doit être valorisée et elle doit bénéficier d'aides. Ce que personne ne peut comprendre, c'est que des entreprises qui font tout l'inverse continuent à bénéficier d'aides. On ne peut pas loger à la même enseigne une entreprise qui fait le choix de l'emploi et une entreprise qui fait le choix des licenciements. On ne peut pas loger à la même enseigne une entreprise qui fait le choix de la précarité et des bas salaires et une entreprise qui fait le choix de promouvoir des revenus plus importants pour ceux qui produisent les richesses. On a besoin de critériser tout ça, d'avoir une politique intelligente qui consiste à aider les entreprises qui ont des comportements vertueux et à pénaliser celles qui font le choix de licencier à tour de bras. Ça me paraît être du bon sens et je pense que le gouvernement ferait bien de cheminer dans cette voie-là.
La chasse aux niches budgétaires, la réforme des retraites, est-ce que ce sont pour vous autant de lignes rouges, en tout cas à gauche, qui pourraient peser en faveur d'une prochaine censure du gouvernement à l'Assemblée ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement persiste à vouloir s'en prendre au pouvoir d'achat des travailleurs ou des retraités, à réduire nos services publics, notamment en matière de santé ou en matière d'éducation, inévitablement, il s'expose à la censure. Oui, bien sûr, a fortiori, parce que ça n'est pas du tout ce que les Français ont exprimé lors des dernières élections législatives. Ce qu'ils souhaitaient, c'est un changement de politique. Et aujourd'hui, on a plutôt une aggravation de toutes les politiques qui ont été menées depuis 7 ans maintenant par Emmanuel Macron. Donc oui, ce gouvernement s'expose à la censure.
Merci Yann Brossat. Bonne journée.
Entretien à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi, Anne Cantner.
On va maintenant parler de santé mentale en France, sujet délicat, mais que certaines personnalités commencent à évoquer publiquement.
Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire. Si je me suis tu si longtemps, c'est parce que la maladie mentale fait peur, parce que la maladie mentale reste une maladie honteuse et que oui, j'avais honte. Mais j'ai décidé maintenant d'en faire un combat.
Ces mots sont ceux d'un journaliste très connu en France, présentateur sur la radio la plus écoutée du pays. Et Nicolas Demorand n'est pas le seul à parler des troubles dont il souffre. Des artistes, des sportifs ont fait récemment la même démarche. Alors cela peut-il servir aux patients qui souffrent de maladies semblables ? Notre reporter Laurence Théo est allé poser la question au sein de l'association La Maison Perchée qui accompagne de jeunes adultes atteints de troubles psychiques.
La honte dont parle Nicolas Demorand, Maxime Pérez-Zilvogel la connaît bien. Âgé aujourd'hui de 32 ans, il a été diagnostiqué bipolaire avec phase d'euphorie et période de dépression il y a près de 10 ans.
Mais j'ai pas eu honte, j'ai eu très honte au départ. En fait, vous vous rendez compte de tous les délires que vous avez eus et de tout l'impact que ça a pu avoir sur votre entourage, sur vos amis. Moi, j'ai dû arrêter mes études à cause de ça. Enfin, c'est très très dur de se retrouver après seul face à tout ça et se dire mais pourquoi en fait ?
Alors le fait que des journalistes, comédiens, artistes, sportifs témoignent au grand jour de leur maladie mentale est pour lui salutaire.
8 ans, j'attendais ce moment-là qu'une star prenne la parole sur le sujet pour que voilà, ça amène la discussion. Enfin moi je sais que quand j'étais à l'hôpital, le fait de savoir que des gens comme Van Gogh, Baudelaire et compagnie l'étaient, ça m'a rassuré et ça m'a permis de dire que voilà, ils avaient quand même du talent. Disons que ça a été quelque chose qui m'a rassuré et qui m'a permis de m'ancrer et de me dire voilà, je peux quand même vivre avec cette maladie.
La maladie mentale n'est pas une maladie comme les autres, car elle est stigmatisante et comme l'explique le psychiatre Thierry Nagemann, c'est difficile de vivre avec cette pathologie.
Il y a à peu près 15% des personnes qui sont diagnostiquées bipolaires qui vont décéder par suicide et qui vont avoir des trajectoires extrêmement impactées par la maladie en termes de divorce beaucoup plus fréquents que dans la population générale, en termes de perte d'emploi. Donc ce sont des trajectoires de vie qui sont accidentées.
Le psychiatre encourage alors ces témoignages de gens connus très bénéfique pour les patients, mais il avertit.
C'est très bien que les personnalités publiques fassent cette sorte de coming out, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, puissent parler le plus simplement possible et de façon solidaire de leurs difficultés personnelles et de leurs maladies. Mais tout le monde n'est pas une personnalité publique. Et Nicolas Demorand ou Yannick Noah ou Manodou et d'autres ont peut-être la possibilité de trouver plus facilement que d'autres une aide psychiatrique, un soutien, mais ce n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Et je crois que c'est important d'en profiter pour dire que voilà, la psychiatrie traverse une crise extrêmement profonde.
Un questionnement d'autant plus pertinent que la santé mentale avait été décrétée grande cause nationale en 2025.
Reportage de Laurence Théo à réécouter sur l'appli RFI Pure Radio.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.